émission, l'écran radiophonique vous présente un scénario de Jean-Pierre Junier. De Sainte-Croix. Mise en scène, production, Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisé sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. En avril, peut-être que votre invitation a dû s'égarer. Il y a malheureusement dans le même quartier que moi une personne qui a le même nom de famille que moi. Et souvent, nos courriers se mélangent. Je suis vraiment confus. Auguste lui dit, avec le sourire dans la voix, « Cela n'a aucune importance. Ça arrive. Mais j'aimerais savoir si vous acceptez maintenant que vous le savez, mon invitation pour la fin de semaine. Nous pourrions partir. Je viendrai vous chercher en voiture chez vous. Disons, nous pourrions partir vendredi, en fin d'après-midi, vers les 19h. Est-ce que cela vous convient ? » Jean-Pierre Junier est de plus en plus gêné. Et il a l'impression qu'on le force à accepter cette invitation. Et puis il n'est pas tellement en forme, car toutes les nuits, il fait des cauchemars, où il se trouve dans des endroits terribles, noirs et sombres, entourés de gens bizarres, qui cherchent à l'ennuyer. Mais comme il est très poli, oh, cette politesse, qu'est-ce qu'elle en fait faire comme bêtise ? Il lui répond, je vous remercie, je serais enchanté de passer la fin de semaine avec vous, monsieur. Je suis confus pour cette histoire de courrier qui a dû s'égarer. Cette invitation, cela me gêne un peu car je ne sais comment faire pour vous remercier. Auguste lui dit, vous n'avez pas à me remercier. C'est moi qui vous invite parce que je serais flatté de vous avoir près de moi et que nous puissions sympathiser et peut-être devenir amis. Alors, vous acceptez mon invitation, je viendrai vous chercher vendredi à 19h, en bas de chez vous. Cela vous va-t-il ? Oui, je vous remercie, monsieur.
Ne m'appelez pas monsieur, mais Auguste, et moi je vous appellerai Jean-Pierre. Ce sera plus simple pour parler.
Je vous remercie, Auguste, et à vendredi, 19h. Jean-Pierre est furieux. L'autre cherche à s'introduire dans sa vie et même veut avoir des familiarités avec lui. Il ne connaît même pas cette personne et le voilà qui cherche à s'incruster dans sa vie privée et presque à le tutoyer. C'est un comble. Il aimerait c'est pouvoir fuir et que l'autre ne sache pas où il se trouve. Mais cela est impossible. Et puis, il a dit oui. Il lui a dit oui parce qu'il ne voulait pas dire autrement. Oui, étant donné que l'autre a tout fait pour qu'il dise oui. Il se demande pourquoi Auguste cherche-t-il tant à avoir des relations avec lui. Bien sûr, il a eu un prix littéraire, mais ce n'est pas grand-chose. Et puis Auguste est plutôt dans le monde des affaires. Et puis, ne peut-on pas le laisser tranquille? Lui ne va jamais chez personne et reste toujours chez lui sans rien demander à personne. Pour une fois qu'il va à une invitation, cela lui crée des ennuis. Cela fait 10 ans qu'il n'a aucune relation amoureuse et il en est bien satisfait. Alors, il ne veut pas avoir de relation amicale ou autre avec qui que ce soit. Il a son œuvre à écrire et c'est le plus important pour lui. Il passe une journée angoissante, terrible. Il ne peut pas écrire une seule ligne car ses pensées sont sur cette maudite invitation. Maintenant qu'il a accepté, il faut qu'il se prépare pour cette fameuse fin de semaine. Il réfléchit, se dit que comme il va à la campagne, certainement dans un coin perdu, il doit faire un temps pourri. Il doit s'acheter des vêtements en conséquence. Il va faire des grands magasins pour s'acheter des pulls, pantalons de sport en velours, des chemises pratiques, des chaussures et des chaussettes de marche, des sous-vêtements et pyjamas. Il achète aussi des choses pour la pharmacie, genre piqueur d'insectes, etc. Car il s'imagine qu'il va se trouver en pleine brousse. Tout ceci lui fait perdre beaucoup de temps, car il faut qu'il aille plusieurs fois dans les magasins et commencer à faire ses valises. En plus de toutes ces choses, genre sportives, il amènera aussi des vêtements de ville, on ne sait jamais. Ce qui fait qu'il a perdu une semaine ou n'a pas pu écrire une ligne. Il est furieux. Enfin, le vendredi arrive. Il reste toute l'après-midi à côté de ses valises et de son sac de voyage à attendre, anxieux, car on ne sait jamais. Il part tout de même avec une personne inconnue et dans un lieu inconnu. C'est l'aventure. Et une aventure qui peut le mener loin. Lui qui a une vie casanière, bien régulière, une vie sans aventure, va vivre une aventure. À 18h30, il entend la sonnerie de son interphone. Tremblant, il va voir sur l'écran et voit Auguste, le sourire aux lèvres. Il dit « Oui, c'est moi, Auguste. Bien, je descends. » Il se dit « Merde ! J'aurais aimé qu'il ne vienne pas et qu'il ait eu un empêchement. Que vais-je faire là-bas avec cette personne ?» Il prend ses deux valises et son sac de voyage et sort de son appartement. Puis prend l'ascenseur. Arrivé en bas de son immeuble, il retrouve Auguste, tout sourire, habillé en costume de ville et lui habillé comme s'il allait faire une course à la campagne. Auguste lui demande
« Ça va ?»«
Oui, merci pour l'invitation.
Je n'ai rien. Vous verrez, nous allons passer des moments fort agréables. J'ai prévenu les domestiques et les pièces seront chauffées. Lorsque nous allons arriver, un repas sera prêt. J'ai tout prévu pour votre bien-être.
Je vous remercie, monsieur.
Pas monsieur, mais Auguste, Jean-Pierre.
Oui, Auguste. Auguste, tout sourire, mène Jean-Pierre à sa voiture, qui est une grande voiture noire de tourisme, avec, devant la voiture, un chauffeur habillé en chauffeur. Ils entrent dans la voiture, le chauffeur met les bagages dans le porte-bagages et met la voiture en route. Jean-Pierre se sent extrêmement gêné d'être enfermé dans une voiture à côté d'une personne qu'il ne connaît pas. Et ceci durant des heures. Il ne sait trop quoi dire et n'a même pas du tout envie de lui parler. Quant à Auguste, lui semble très heureux, lui tapote les jambes et lui dit constamment
« Vous verrez, c'est très bien et cela vous fera du bien de pouvoir sortir de Paris. Je vous trouve plutôt mauvaise mine. Vous avez dû certainement trop travailler cette semaine. »
Jean-Pierre lui dit un peu agacé, mais en lui cachant son agacement.
« J'ai pas beaucoup travaillé cette semaine, et même pas du tout. »
Auguste lui dit « L'inspiration ne vient pas tout le temps. »
Et Auguste lui parle des lieux où ils vont passer, de son travail à la banque, et des ennuis causés par la crise. Il lui dit aussi qu'il vit seul et qu'il n'a qu'une tante vieille et qu'il perd la tête. Le trajet semble long, très long pour ce pauvre Jean-Pierre qui se sent prisonnier dans cette voiture. Il a hâte que l'on soit arrivé pour pouvoir se réfugier dans la chambre qu'on lui donnera. Enfin, être seul. Lui, Auguste, ne semble pas s'apercevoir de la gêne de Jean-Pierre, ou s'il s'en aperçoit, il fait celui qui ne s'en rend pas compte. Enfin, ils arrivent dans la soirée en Bourgogne et au château. Jean-Pierre, le château et ses environs lui paraissent lugubres, et il a l'impression de retourner dans ses cauchemars qu'il a fait durant toute la semaine. La voiture s'arrête devant le perron. Un domestique habillé en domestique les attend et s'approche de la voiture. Auguste et Jean-Pierre sortent de voiture et entre au château. Pendant que le chauffeur domestique prenne les bagages. L'intérieur du château paraît encore plus lugubre à Jean-Pierre. L'on dirait, dans ces pièces sombres, que c'est un château où habite au moins un vampire.
Auguste lui dit, je vais vous mener à votre chambre pour que vous puissiez vous changer et vous reposer un peu avant le repas. Les domestiques vont vous mener vos bagages. Suivez-moi.
Jean-Pierre suit Auguste qui lui fait monter un grand escalier sombre et lugubre. Lui fait suivre un immense couloir sans fin. On n'y voit quasiment rien.
Il le fait entrer dans une pièce qui est une chambre où se trouve un feu de cheminée. La pièce semble immense, les meubles énormes, mais semble confortable. Auguste lui demande, est-ce que cette chambre vous convient? Oui, merci. Bien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez appuyer sur la sonnette qui se trouve sur la table basse. La salle de bain se trouve derrière cette porte-ci. Il ouvre la porte et lui montre une magnifique salle de bain en marbre rose. Je vais vous laisser vous reposer. Un domestique viendra vous aider pour ranger vos affaires. Et l'on viendra vous prévenir pour le repas. À tout à l'heure. Et au disque se retire. Jean-Pierre, étourdi, attend, debout au milieu de la chambre. On a frappé à la porte. Entrez. C'est le domestique avec ses bagages qui les pose sur le sol et demande, puis-je vous aider à déballer tout ceci, monsieur? Oui, merci. Après avoir rangé ses affaires, pris un bain pour se détendre et changer de vêtements, il attend qu'on l'appelle pour le repas du soir. Le repas se passe dans la salle à manger, pièce sombre, remplie d'ombre. Ils sont assis l'un en face de l'autre. Durant le repas, Auguste n'a fait que de parler de sa semaine de travail et des ennuis qu'il a pour trouver des fonds pour ses affaires. Et il a demandé à Jean-Pierre des choses sur sa vie. Jean-Pierre lui a répondu d'une façon plus ou moins évasive, mais polie. Ensuite, comme ils sont fatigués tous les deux, ils sont allés se coucher. Jean-Pierre passe une nuit effroyante, effrayante, pleine de rêves terribles. Et lorsqu'il se réveille, il se trouve dans un lieu qu'il ne connaît pas, avec des ombres terrifiantes. Il se réveille, il fait jour, regarde sa montre, il est 8h et décide de se lever. Il a mal de partout, se déshabille et va dans la salle de bain. Une heure plus tard, il se trouve en face d'Auguste pour prendre son petit déjeuner. Auguste semble soucieux et lui dit
« Je crains que malheureusement je sois obligé de vous laisser ce matin car j'ai à régler une chose très importante pour mon travail. Pardonnez-moi et j'espère que vous trouverez à vous distraire en vous promenant dans le jardin. »
Jean-Pierre lui dit « Ne vous inquiétez pas, allez à vos affaires. » Et Auguste le quitte. Jean-Pierre, heureux de se trouver seul ce matin, décide d'aller faire un tour dans le parc. Il retourne à sa chambre pour s'habiller chaudement et va se promener dans le parc. Il lui semble un peu abandonné et triste, avec ses arbres nus, ce ciel gris, ses feuilles mortes sur le sol. Il suit une allée
et marche au hasard. Jean-Pierre marche au hasard dans le parc. Il se trouve dans un endroit du parc qui semble abandonné et qui ressemble plutôt à une petite forêt. Tout à coup, il voit dans l'herbe un monticule de pierres et sur le côté une ouverture comme une grotte. Il s'approche en se disant que ce doit être un puits ou un ancien garde-manger où les personnes d'antan mettaient les aliments à conserver sous terre. Intrigué, il va voir et se penche pour voir l'intérieur. Malheureusement, il se penche un peu trop et glisse, tombe dans le trou et se trouve en bas sans s'être fait mal, car il est tombé sur la terre molle et humide. Il a eu très peur et il est essoufflé. Il se redresse et regarde autour de lui. Il voit quelque chose de plus clair que la terre et voit avec horreur que c'est un squelette d'un enfant où il reste encore sur les os un peu de chair noirâtre et des tissus. Cette découverte le surprend et l'effraie. Après s'être remis de ses émotions, il se demande qui peut être cet enfant et ce qui lui est arrivé. Il voit aussi à côté du petit corps du squelette un cahier à couverture rouge qui semble très usé. Il décide de le prendre. Après avoir bien regardé le corps de l'enfant et autour de lui, il décide de remonter. Il s'approche de la paroi et la regarde. Elle est assez lisse et n'a pas de prise à part des racines. Il met le cahier dans sa poche et commence à monter en se servant des racines pour se maintenir. La montée est difficile. La paroi est glissante et humide. Il y a de l'eau qui suinte et ça glisse beaucoup. Il n'est pas très sportif et met un certain temps pour remonter en se servant des racines. Une fois sorti du puits ou du garde-manger, il est essoufflé et réfléchit une minute. Il se demande s'il doit prévenir Auguste de sa découverte. Il a peur que cela lui apporte des ennuis et lui fasse perdre du temps. Et puis cet enfant, ce cadavre, pourquoi est-il dans ce puits? Peut-être que l'enfant est tombé et n'a pas pu se relever, ou qu'il est mort sur le coup, qu'il a dû tomber en se penchant comme lui. Il se dit aussi que le cadavre semble déjà ancien. Il réfléchit et cela l'ennuie beaucoup. Puis il se dit qu'il ne dira rien pour éviter les ennuis et de perdre son temps. Il se souvient qu'il a dans sa poche le petit cahier rouge. Il décide c'est de lire en cachette et que cela va peut-être lui donner des explications sur la mort de cet enfant. Et que peut-être cela va lui donnera une idée, un sujet de roman. Jean-Pierre a un caractère assez égoïste et aussi peureux. C'est pour cela qu'il a décidé de ne rien dire et comble de son égoïste. Il n'est pas contre de faire une histoire, ce qui est arrivé à l'enfant, mais ne veut pas des ennuis. Il range ses vêtements, enlève la poussière et les toiles d'araignée pour entrer au château.
Une fois
Rentré au château, il monte à sa chambre. Pour pouvoir lire le cahier. Il s'assoit sur une chaise. Et ouvre le cahier rouge.
Le cahier a une couverture en plastique souple, rouge. Les feuilles sont jaunies d'humidité, sentent mauvais, mais l'encre a résisté au temps et il peut lire. Ce qui le surprend tout d'abord, c'est que l'écriture semble plus récente que celle du cadavre. Il voit que c'est écrit au stylo à billes, alors que le squelette semble être très ancien et que les lambeaux de vêtements sont d'une autre époque. Il commence à lire. L'écriture est facile à décrire. À décrypter. Elle est très régulière. Tout d'abord, il ne comprend pas très bien ce que c'est que cette histoire qui est écrite sur le cahier en lisant des passages. Il a des doutes sur ce qu'il lit et se dit que le cahier raconte une histoire abracadabrante. Mais comme le cahier a été retrouvé près du cadavre de cet enfant, il décide malgré tout de lire. Et peut-être que ce qu'il raconte, ce qui est raconté et écrit dans ce cahier, n'est que le fruit d'une imagination. Il décide d'écrire le cahier, de lire le cahier le soir dans sa chambre. C'est ce qu'il fait et pense toujours que c'est le fruit d'une imagination, mais il y a le cadavre. Et puis, comment savoir ce que dit le cahier et la vérité? Au fur et à mesure qu'il lit, il se rend compte que le cahier raconte ce qui s'est passé après la mort de l'enfant. Comment cela se fait-il? Il se rend compte aussi qu'il raconte l'histoire de personnes qui ont pris sa place. Et puis cette histoire qu'il raconte, car cela ressemble à une histoire, semble un peu abracadabrante ou comme un cauchemar. Elle raconte des retours en arrière, des retours d'un monde à un autre. Tout cela semble étrange et pas très réaliste. Et qu'est-ce que faisait ce cahier déposé près du cadavre? S'il a été déposé bien des années après la mort de l'enfant, cela veut dire qu'au moins une personne connaît ce cadavre et n'a rien dit. Peut-être. Peut-être qu'il n'a rien dit. Et pourquoi raconter cette histoire? Cette histoire qui semble vraiment invraisemblable. Malgré l'invraisemblance de ce qu'il dit, cela le passionne et se dit que ça peut être le sujet d'un bon livre. Une fois qu'il a fini de lire le cahier, la nuit durant son séjour au château, il décide de faire une enquête pour pouvoir savoir qui était cet enfant. Dans la journée, il retrouve son hôte et ne lui dit rien de sa découverte. Il se comporte normalement avec lui. Auguste est aimable avec Jean-Pierre, lui fait visiter les environs, le château, lui présente à des personnes du pays. Jean-Pierre lui aussi se comporte comme un bon invité. Auguste lui pose des questions sur son métier d'écrivain. Thank you. nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique le scénario original de Jean-Pierre Jugnet de Sainte-Croix, production, mise en scène, Jean-Pierre Jugnet.